Le couple, c'est le thème décliné en janvier, avec pour commencer l'interview de Julien Perron. Un vrai moment de bonheur. Bienvenue dans Lâche-toi la grappe, le podcast qui t'aide à décompresser et à savourer la vie en toute simplicité. Je suis Fabienne Levia, sourcière d'amour, révélatrice de trésors. Je t'accompagne à la rencontre de l'être unique et merveilleux que tu es. Mon grand kiff, l'effet miroir. Ma botte secrète, la capacité à me relier aux émotions enfouies pour les libérer. Une des valeurs que j'ai à cœur de partager, la simplicité. Si tu veux en savoir plus sur moi et les activités que je propose, je t'invite à visiter le site fabiennelevia.com.
Alors, bonjour Julien, merci infiniment d'avoir accepté ma demande, d'être là aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le sujet du couple. Alors, je ne pense pas que ce soit vraiment ta spécialité par rapport à tout ce que tu fais, j'ai vu que tu faisais beaucoup de choses, mais moi, j'ai vu notamment deux textes que tu as partagés sur les réseaux, qui ont beaucoup résonné en moi, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et voilà pourquoi je t'ai invitée. Mais bon, mes auditeurs te connaissent peut-être pas, donc je vais te laisser un petit peu te présenter, puis après, on ira dans le vif du sujet.
Ça marche. Merci Fabienne, d'ailleurs, de m'accueillir. Hein, c'est chouette. C'est vrai que je parle très peu de couple. Hein, on m'invite très rarement pour parler de couple. Moi, si je suis plus connu, si le terme est exact, connu. autour du monde de l'éducation et de la connaissance de soi. J'ai créé mon entreprise il y a plus de 20 ans maintenant. J'étais jeune, j'avais 23 ans à l'époque, j'en ai 43 aujourd'hui. Et en fait, j'ai créé plusieurs choses. J'ai créé le marché du tourisme bien-être et éco-responsable à l'époque. C'est ce qui m'a permis en fait de lancer mon entreprise. Mais sans m'en rendre compte, hein, moi je voulais juste faire voyager les gens de la façon dont je voyage maintenant depuis une trentaine d'années. Et en réalité, tout ça était inexistant. Donc, j'ai créé le marché du tourisme bien-être et éco-responsable. Finalement, ça m'a pas plu. J'ai pas aimé l'ambiance générale qu'il y avait dans le monde du tourisme, notamment, j'allais dire, de manière concurrentielle, même si moi, je vois pas les autres comme des concurrents. Mais voilà, c'est très dur, en fait. C'est vraiment très, très dur. Et ça correspond pas à mes énergies. Donc, du coup, j'ai switché. Et on a créé à l'époque, avec les gens avec qui je travaillais, l'agence de communication Néo-Bien-être. Qui est une agence qui est dédiée aux thérapeutes, au monde de la connaissance de soi, au développement personnel. Donc ça devait être en 2007, parce que moi, je suis né dans une famille où on parle de tout ça depuis que je suis tout petit. Ah. Ma mère tirait des cartes, elle faisait des thèmes astrologiques, on allait voir des iridologues, des sophrologues, enfin bon, bref, on était vraiment plongés dedans, avec un père très sportif qui a fait 42 marathons, donc il faisait très attention aussi à l'alimentation, à l'hygiène de vie, etc. Et donc, voilà, je crée cette agence pour démocratiser, parce que peut-être que tu le sais, mais à l'époque, en 2003, quand on parlait de mots juste bien-être, on nous prenait pour une secte ou pour un voire mouvement sectaire, voire hippie, mais juste le mot bien-être. Alors, je te raconte pas méditation ou yoga. Et donc, moi, comme je baignais là-dedans depuis que j'étais gamin, je me disais, c'est injuste, en fait. Il y a tellement de bons professionnels dans ce secteur d'activité qu'on peut englober dans les médecines douces, le développement personnel, etc., que je voulais vraiment le démocratiser. Parce que j'ai vu que j'étais bon en tant qu'homme de communication, j'ai vu que j'avais une facilité à fédérer les gens autour de moi, que c'était mes qualités innées. Et puis depuis que l'agence de communication Néo-Bien-être existe, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai réalisé des films, donc on peut considérer que je suis réalisateur et producteur de films. Le premier, c'est quoi le bonheur pour vous? Et le deuxième, c'est l'école de la vie, une génération pour tout changer. Mmh. On s'est rajouté d'autres casquettes en devenant créateur d'événements, on a créé le festival pour l'école de la vie il y a 7 ans en arrière, qui se déroule à Montpellier tous les ans. Il y a 15 000 personnes qui viennent autour de l'éducation au château de Flaugergue. Et puis après, on a créé le congrès innovation en éducation, qui lui est beaucoup plus destiné aux enseignants et aux professionnels de l'éducation et aux parents qui s'intéressent à l'éducation, évidemment. Ça nous a amené à créer la marque innovation en éducation. Et de là, on a découlé le podcast innovation en éducation, un magazine papier innovation en éducation, qui est distribué maintenant, il y a 7000 abonnés dans 40 pays. On a créé une académie qui s'appelle l'Académie Innovation et l'Éducation qui propose des programmes audio pour accompagner les futurs parents, les parents et les professionnels dans le monde de l'éducation. Et en parallèle de ça, on a créé une marque qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous, qui est issue du film C'est quoi le bonheur pour vous, dans lequel on a décliné un podcast donc qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous, un congrès, le premier congrès aura lieu en septembre 2023, donc le congrès C'est quoi le bonheur pour vous, On a créé un jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous? Et puis là, je suis en train d'écrire des livres pour la maison d'édition Erol. C'est une collection qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Le premier livre sort en juin 2023. Qui s'appelle donc C'est quoi le bonheur pour vous? En chemin vers soi. Alors, on fait d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. Et en gros, on peut considérer, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens profondément pour être très court. Je me sens comme un jardinier. J'ai l'impression de semer des graines autour de moi depuis une vingtaine d'années dans le monde de l'éducation et dans le monde de la connaissance de soi. Ouais. Voilà.
C'est magnifique, cette idée de jardinier. Moi, j'ai créé un groupe qui s'appelle S'aimer pour mieux semer. Donc, quand je disais qu'il y a vraiment des résonances, c'est marrant. C'est intéressant aussi. Enfin, moi, j'adore cette idée de l'éducation, des parents. Et justement, ben, le couple, c'est avant. Enfin, c'est avant. Ça tombe tout à fait quand même dans le sujet, puisque avant d'être parent, ben, on peut former un couple. Donc, voilà. Mais c'est magnifique. En fait, tout ce que tu fais, c'est génial. Donc, il y a vraiment beaucoup de casquettes là. C'est pas trop, des fois pas trop de pression. T'arrives à, enfin, je pense que t'es bien entouré, quoi. T'arrives à tout gérer. Ça va.
Oui, mais en fait, ce que je dis très souvent, c'est que c'est aussi pour ça que ces 10 dernières années, je mets beaucoup d'énergie dans le monde de l'éducation, parce que je suis convaincu que tout part de l'éducation. Mmh. Donc, comme je te le disais, moi, je suis né dans une famille où déjà, on était un peu là-dedans, quoi, quelque part. Mais pour autant, j'ai un grand frère qui a 5 ans de plus que moi et qui, lui, n'a pas suivi cette direction. Il est resté très cartésien. Mmh. Et en fait, moi, j'ai commencé à m'occuper de moi, on va dire aller sur le chemin de la connaissance de soi, allez, vers l'âge de 10 ans en réalité, quoi. Wow. Donc ça a commencé hyper tôt.
Ah bah oui.
Et je me rends compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça m'aide beaucoup pour une simple et bonne raison qui va être très pragmatique, c'est que j'ai mis en place dans ma vie ce que j'appelle une routine ou un rituel qui fait que je me fais passer en premier avant toute chose. Donc voilà, tous les matins, j'ai mon rituel d'1h30 où je m'occupe de moi à travers le yoga, des exercices sportifs, de la méditation, etc. Puis en fin de journée, j'ai une discipline, on va dire, où je m'arrête de travailler à 4h30 de l'après-midi pour continuer à prendre soin de moi après derrière. Donc là, en l'occurrence, je vais aller faire du vélo. Moi, je suis au bord de la mer, donc je vais aller nager, etc. Donc j'ai toute cette discipline qui fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit, hein, quasiment. Je voyage beaucoup aussi parce que ça fait partie de mon développement personnel. Et je sens en fait que j'ai besoin de ça pour de la découverte, de l'horizon, de la beauté, de la rencontre, etc. Donc je cultive en fait tout ça. Je suis un peu le jardinier pour moi-même, hein, quelque part. Et donc, ce qui fait que, à partir du moment où déjà je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, et que je fais quelque chose qui m'épanouit pleinement, dans lequel je me sens utile, et dans lequel, ben, comme je te disais, je sème des graines et je participe à une éclosion positive, en fait, autour de moi, à des prises de conscience, à apporter un nouveau regard sur beaucoup de choses, je me sens utile. Et ça fait partie notamment des dominantes du bonheur, avec le lien social, se sentir utile et voir, en fait, que nos actions portent quelque chose qui porte l'humanité, qui a vraiment une dimension humaniste en fait derrière. Ouais. Donc quand tu es dans cette dimension-là, si on amène les enfants à aller dans cette dimension de se connaître, etc., t'en arrives à un moment donné à faire des choix professionnels. Soit tu crées une entreprise, soit tu vas dans une entreprise qui donne du sens. Et dans ce cas-là, ton métier, si c'en est un, parce que moi j'ai pas l'impression que ce soit un métier, participe pleinement dans un premier temps à ton épanouissement personnel. Et ça devrait être comme ça en fait dans notre société.
Oh bah oui.
ça devrait être la base. Mais comme on nous apprend pas le domaine du savoir-être et de la connaissance de soi, et qu'on nous met sur des rails bien, bien ficelés, bah, évidemment, pour la majorité d'entre nous, c'est pas forcément logique. À part quand j'en parle, quand je discute avec des gens, bah, évidemment, ils sont d'accord avec moi. Mais si on les amenait le plus tôt possible, bah, dans ce cas-là, voilà, ils seraient, comme moi, chacun serait utile avec ses compétences innées, avec qui il est. Et donc, dans ce cas-là, tu t'éclates, en fait. Moi, je m'éclate dans ce que je fais, quoi.
Ouais, c'est magnifique ce partage, est tellement parlant, cette importance de prendre soin de soi, qui est pas forcément évident. Tu vois, là, quand je t'entends, je t'admire, parce que pour moi, c'est pas tous les jours évident d'avoir une discipline ou de vraiment m'occuper de moi, mais bah, c'est à quoi je suis attentive. Mais c'est clair que ça commence par là, et l'éducation, c'est clair que c'est la base, quoi.
Pardon. Attends, mais moi, le premier, hein, je tiens quand même à souligner, tu vois, encore ce matin, là, je me suis mis à prendre des douches froides, par exemple. Je suis en train de faire ça. Ouais. Parce que j'ai vu les bienfaits, j'ai discuté avec les gens qui le font, etc. Donc, ça y est, j'ai commencé avant-hier. Donc, c'est très récent. Et là, je commence à mesurer l'effet que ça me donne. Tu vois, ça fait quelques jours, mais je soupçonne sur du long terme ce que ça peut m'apporter en termes de vitalité. Ouais, je peux dire que ce matin, j'avais pas du tout envie de prendre une douche froide. Hein. Mais vraiment pas. J'avais pas du tout envie. Et ça m'arrive plein de fois, arrivé à 4h30, de pas avoir envie d'aller faire du vélo. Mais en fait, je crois que j'ai tellement pris l'habitude que je sais que quand je vais faire cette session de vélo, quand je vais faire mes exercices le matin, je sais qu'une fois que j'aurai terminé, je vais être dans une bonne énergie, dans une bonne vitalité. Mais le gap pour franchir le pas, je peux te dire que ça m'arrive plein de fois de pas du tout avoir envie, quoi. Donc, je pense que c'est important de le rappeler, on est tous des êtres humains, je ne suis pas un super-héros. Hein. Ouais. Mais je sais les effets qu'il y a derrière et je pense que c'est ça, en fait, qui le pousse à le faire.
Et le couple, alors, dans tout ça? Parce que ces notions-là, je pense qu'elles sont essentielles à comprendre dans le couple et j'aimerais bien justement que tu partages ta vision du couple, comment prendre soin de soi en étant dans le couple, parce que souvent, je vois que c'est pas évident de pas se s'oublier par rapport à l'autre, d'être vraiment à l'écoute. Donc, voilà, ça fait partie des choses que j'ai envie de t'entendre, sur lesquelles j'ai envie de t'entendre.
J'ai envie de commencer par un idéal. En fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est que moi, le sujet du couple, il me passionne aussi dans ma vie personnelle. Et donc, du coup, j'ai beaucoup lu, j'ai discuté avec beaucoup de personnes. Moi-même, bah, évidemment, j'ai eu aussi des relations. Donc, du coup, j'ai analysé. Et puis, j'ai une grille de lecture et je me considère un peu aussi comme un analyste. J'aime beaucoup observer, déjà m'observer et prendre du recul sur beaucoup de choses, en fait, dans ma vie. Donc, ce dont je vais te livrer, c'est juste le fruit de mon observation, de ma vie et de mon histoire, quoi. Et donc, moi, j'ai le sentiment que une relation idéale, peu importe, hein, que ce soit entre homme-homme, femme-femme, homme-femme, etc., peu importe, ça serait vraiment l'idée de se dire que, bah, déjà, il y a tout un domaine à faire en amont dont je parlais, c'est-à-dire le domaine de la connaissance de soi, d'où l'éducation. Dans un premier temps, je pense qu'il faudrait idéalement que chaque individu se connaisse profondément et passe du temps avec lui-même, apprennent à être seul aussi, parce que si déjà t'es pas bien seul et que l'autre personne va venir combler quelque chose mais sans que tu le saches, hein, évidemment pour beaucoup c'est totalement inconscient, bah déjà c'est bancal en fait d'origine. Donc déjà c'est être bien avec soi-même, c'est s'aimer quelque part, c'est s'épouser, comme le dit une amie qui s'appelle Nathalie Lefebvre, quoi, de s'épouser, quoi.
La bague.
Ben voilà, c'est ça.
La bague.
Et ça, je crois que c'est déjà vraiment le premier pas, en fait, pour tout individu, quoi. Si déjà t'es bien avec toi, t'as réglé, si t'as des choses à régler de ton enfance, plein de choses, tu vois. Si déjà, voilà, t'es vraiment bien avec toi et que t'es heureux et épanoui, tu prends soin de toi, c'est le dénominateur commun. Donc, si on part du principe que les deux protagonistes font la même chose, déjà, on peut se laisser imaginer que c'est déjà une belle rencontre parce que c'est deux personnes qui cheminent chacun de leur côté et qui ont conscience que ben, la première chose à faire, c'est de prendre soin d'eux tous les jours, quoi. Une fois que ça, c'est fait, moi, je pense que c'est un croisement de chemin. Tu sais, j'aime bien, en fait, cette idée qu'à un moment donné, on se croise sur notre chemin. Et peut-être qu'à un moment donné, là, on se croise, c'est le bon moment pour continuer le chemin à deux. Mais j'ai du mal à croire, je sais pas si c'est lié au fait que mes parents ont divorcé ou pas, mais j'ai du mal à croire qu'on puisse se dire qu'on va terminer toute notre vie avec quelqu'un, quoi. Et c'est quelque chose qui me paraît quelque part improbable parce qu'on est 8 milliards d'individus sur notre planète. On est amené à rencontrer plein de monde normalement, hein, si on a un minimum social, on rencontre plein de monde dans notre vie de tous les jours, dans les transports, enfin tout le temps, quoi, en fait on rencontre du monde. Donc il peut se passer à un moment donné une étincelle, une rencontre, quelque chose qui fait que ça pourrait remettre même en question, en fait, le couple dans lequel tu te trouves, quoi. Donc j'ai du mal à me dire qu'on puisse partir comme ça à vie ensemble, mais en tout cas j'aime bien l'image de dire voilà, on se rencontre à un moment donné sur le chemin puis on fait chemin ensemble, quoi. Et puis voilà, j'allais dire Inch'Allah, et on voit jusqu'où on va ensemble, mais en tout cas, on essaye de kiffer, j'aime bien cette idée de kiffer un maximum et de prendre beaucoup de joie et de bonheur dans le chemin, quoi. Mais ça, c'est pas fini, j'ai envie de dire, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est bien, on a les bonnes bases, mais après, il y a un troisième élément qui arrive, c'est le couple. C'est-à-dire qu'on a deux personnes, et pour moi, après, il y a une troisième personne, et c'est le couple. Et c'est là où on voit ou pas si chacun a déjà su évoluer dans ses relations avant, en fait, et s'il a réussi à tirer des conclusions, s'il y a eu des échecs à les comprendre et ne pas faire les mêmes erreurs derrière. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Après, c'est voir comment on peut, tous les deux, faire évoluer cette troisième personne qui est le couple. Et donc, du coup, bah, au même titre qu'une autre personne, le nourrir, quoi, dans tous ses besoins, quoi, d'amour, j'allais dire, d'eau, de le nourrir pleinement pour qu'il soit épanoui. Et ça, je me rends compte que c'est très challengeant. Parce que tout le monde n'est, et je pense que c'est parce qu'on ne nous a pas appris ça, tout le monde n'est pas réellement dans l'écoute. Ça s'apprend, en fait, d'écouter. Et je vois bien que dans nos relations, même amicales et donc aussi dans le couple, que finalement, on s'écoute pas réellement quand on a des choses à dire ou s'il y a quelque chose qui va pas ou s'il y a quelque chose qui nous froisse, etc. Parce que on nous a pas appris, j'ai l'impression, à mesurer le degré d'émotion dans lequel la personne s'exprime. Je donne un exemple. Moi, j'aime bien cette échelle de 1 à 10. Imaginons, à un moment donné, on est ensemble, en couple, et puis il y a quelque chose, en fait, qui va pas, et t'as envie d'en parler. Tu vas m'en parler, mais moi, je vais pas savoir dans quel degré émotionnel tu es quand tu m'en parles. Donc, il se peut que pour moi, ce soit pas si important que ça, alors que pour toi, c'est super important.
Ouais.
Et donc là, je pense que l'idéal serait de me dire, tu vois, en fait, Julien, sur une échelle de 1 à 10, ce que je suis en train de te dire, pour moi, là, je suis émotionnellement, je suis à 10, quoi. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Et donc, du coup, ben, moi, en fait, je pourrais comprendre beaucoup mieux et me dire, ah oui, d'accord, ok, je comprends. Et là, je trouve que la discussion serait peut-être plus équilibrée, quoi. On serait sur le même niveau, tu vois, émotionnel, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est le premier point. Donc, l'écoute et après la communication. Et pourtant, moi, je me considère comme un homme de communication. Je vois bien que la communication est quand même c'est vraiment très compliqué, quoi. Vraiment très compliqué. Et pourtant, j'essaie de faire du mieux que je peux. Et je suis avec aussi une personne qui est aussi dans cette dimension-là. Mais on voit bien qu'à un moment donné, on se fait rattraper par une espèce de pulsion, un élan en fait naturel qui est lié par notre conditionnement, hein, par notre histoire et tout, etc. Alors, nous, ça va, j'allais dire, c'est que à un moment donné, on arrive à prendre le recul, à se rendre compte de ça. Donc du coup, après, on comprend et donc du coup, on peut le transformer. Mais comme la majorité des gens n'arrivent pas à prendre ce recul, du coup, ça devient très, très, très compliqué, en fait, dans nos relations de couple. Mais vraiment, je crois vraiment le point de départ, c'est de commencer à prendre soin de soi, parce que déjà, quand on est dans cette dynamique, ça veut dire qu'on est déjà dans une dynamique de s'écouter. Donc, normalement, on écoute mieux aussi la personne avec qui on est. Enfin, voilà, ça me paraît vraiment le point important.
T'as soulevé deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Le truc de l'échelle des importants, je trouve, c'est génial. Vraiment, ça m'a donné des frissons. C'est un truc génial. Ça va. Je vais le retenir.
Okay.
C'est tellement ça. Et quand tu dis la difficulté de communication, c'est justement en lien avec les émotions. C'est l'émotionnel. Tu peux très bien communiquer avec d'autres personnes. T'as pas forcément il y a pas d'enjeu, entre guillemets. Donc, c'est plus facile. Mais quand il y a l'émotion, c'est aussi pour ça que c'est plus compliqué. Puis il y a quelque chose que tu as dit aussi tout au début. Et enfin, tu l'as pas tout à fait dit, mais moi, je rencontre des fois des personnes qui me disent, de toute façon, faut que j'attende que je sois vraiment bien pour rencontrer quelqu'un. Et moi, ce que je leur dis, alors justement, chacun on a sa vision, mais c'est que moi, ce que j'observe et ce que j'expérimente, c'est que je grandis avec. Moi, je suis mariée pour la troisième fois, et c'est vrai que ce couple-là, c'est celui qui m'a aidé le plus à grandir, parce que par rapport à tout ce que tu dis, j'ai pris conscience de l'importance de m'occuper de moi et je commençais à oser dire. Mais j'observe qu'on grandit vraiment les deux ensemble. Hein, au début, quand j'ai rencontré mon mari, je me disais, mais pourquoi je rencontre quelqu'un comme ça? Lui, il n'était pas du tout dans ce milieu-là, mais il a évolué aussi vachement. Et moi, ça m'a aidé à aller voir des parts que je ne voulais pas voir. Et c'était hyper fort. Alors, je ne sais pas, quel est ton avis là-dessus? Parce que t'as pas tout à fait exprimé ça, mais il faut d'abord travailler sur soi. Ça peut se faire en même temps, d'après toi. Comment? Enfin, de toute façon, ça se fait en même temps, mais tu vois où on met c'est pas le curseur, mais parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais de toute façon, il faut vraiment que j'apprenne à être seule, parce que sinon, j'arriverai jamais à être avec quelqu'un. Pour moi, c'est pas incompatible de l'apprendre ensemble, mais je sais pas ton avis là-dessus.
Oui, je te rejoins quelque part. En fait, quand je t'écoute, je me dis, oui, c'est pas incompatible. Évidemment, ça me semble pas incompatible. Mais pour autant que tu en aies conscience.
Voilà, oui.
Tu vois, et c'est ça, à mon sens, qui change beaucoup de choses, c'est que la majorité d'entre nous n'ont pas conscience en réalité de tout ça, quoi. On vient chercher une béquille chez l'autre, qu'on vient chercher ce que nous on n'a pas et tout, etc. Il y a plein de gens qui ne s'intéressent pas, notamment parce que c'est peut-être pas intéressant forcément à la psychologie, tu vois, ne serait-ce que ça, quoi. Et donc si on part de ce postulat, évidemment c'est pas évident. Par contre, si tu en as conscience, là oui, c'est chouette d'avancer ensemble, mais il faut aussi que l'autre en ait conscience. Évidemment, il faut que les deux en aient conscience, quoi. Pour moi, je dirais pas que c'est vraiment le primordial de d'abord être bien avec soi, d'avoir effacé toutes ses peurs et tout, etc., de, je sais pas, la jalousie, tout ce que tu veux. Mais d'un autre côté, forcément, c'est bancal si à un moment donné, tu rentres dans un couple et que toi, il y a plein de choses que t'as pas su gérer en amont. À un moment donné, de toute façon, ça va ressortir. Oui. Si c'est pas dans ton couple, ça va ressortir au travail, ça va ressortir en amitié. Il y a quelque chose à un moment donné qui va faire que ça va ressortir. Je sais pas, une rencontre, un livre, un voyage, un film, une phrase, une citation, ça va générer un déclic et ça va faire ressortir ce truc-là, quoi. Et peu importe ce que c'est, quoi. Donc, c'est pour ça, une fois plus, que pour moi, ça paraît fondamental d'accompagner les enfants le plus tôt possible dans le domaine de la connaissance de soi, parce que on se mettrait pas ensemble comme on se met ensemble, là, dans notre société. Là, en fait, c'est peut-être juste mon observation, je précise, moi, de ce que j'observe, c'est que les gens se mettent ensemble parce que dans un grand premier temps, ils ont peur d'être seuls. On a une peur de la solitude qui est colossale. Nous, en France, on est quand même le premier pays à consommer le plus d'anxiolytiques. Hein. Et c'est notamment lié à la peur. Alors, la peur, et donc, évidemment aussi la peur d'être seul, donc la solitude. Donc déjà, évidemment, c'est pas le bon argument pour se mettre avec quelqu'un. Et puis après, donc il y a toutes les facettes conscientes et inconscientes que j'évoquais un petit peu, où là, on se met avec quelqu'un parce qu'il va venir combler hein, en réalité quelque chose. Mais si on regarde réellement profondément, moi, je pense qu'au début, oui, il y a de l'amour, il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe, il y a un feeling qui passe et qui donne envie, en fait, d'aller plus loin, en fait, dans cette relation avec cette personne. Mais je suis quasiment sûr que si on regarde profondément et l'un et chez l'autre, ils se mettent pas ensemble pour les bonnes raisons.
Ah ben. Alors, là, je te rejoins, mais à 100%, moi, ma spécialité, ce que je kiffe à fond, c'est faire les thèmes d'alliance et de couple. Moi, les relations, ça me passionne. Et de voir justement, et ça implique d'être honnête avec soi. Et c'est pas évident pour les gens, parce que souvent, ils disent, oh, mais je l'aime, Non, mais oui, peut-être, mais d'une certaine façon. Mais si tu vas voir derrière, il y a toujours, ben, dans le tarot, notamment, je fais les thèmes avec le tarot, tu vois les résonances, pourquoi? Ah, bah, tiens, celui-là, ça, c'est en difficulté. L'autre, c'est sa ressource. Ah ouais, tu peux aller voir ça. Avec le design humain aussi, on peut faire des parallèles. Mais c'est génial, c'est incroyable. Mais en même temps, ça peut des fois amener des grandes désillusions parce que tu dis, comme tu le disais, on est souvent tellement inconscient de ce mécanisme, mais ça fait partie de l'éducation. Et moi, je vois des fois que je dis des choses, mais ouais, vous êtes conditionné, ce que vous vivez, c'est en lien avec l'enfance. Il y en a, ils me regardent avec des yeux comme ça. Ben non, c'est pas possible. Ben si. Et quand t'es d'accord juste d'aller voir, d'accueillir cette vulnérabilité, justement dans le couple, c'est ça que je trouve génial et que j'ai vécu, bah, que je vis avec René, c'est que tous les deux, même si moi, bah, voilà, depuis 19 ans, bah, j'ai fait ma première psychothérapie à 19 ans, donc j'ai toujours cherché, je suis dans ce milieu quand même depuis longtemps, moi j'en ai 54, il y avait encore des choses à aller voir et les deux, on a été d'accord d'aller voir. René, qui connaissait pas du tout, il a été d'accord de s'ouvrir. Et de s'ouvrir à cette vulnérabilité et de pouvoir la partager à l'autre. Et pour moi, ça relève de l'intimité. Tu vois, tu disais la communication. J'ai donné une conférence dimanche par rapport à ça, où les gens ont été touchés par rapport à ce que je disais. C'est oser pouvoir dire à l'autre vraiment ce qui nous blesse au plus profond. Oser exprimer cette vulnérabilité, oser dire à l'autre sans l'accuser, mais juste en parlant de soi, oser se voir pour pouvoir exprimer à l'autre qui on est. Et c'est souvent ça qui est compliqué. Mais quand tu dis, quand on est justement conscient de ce qui nous anime, quand on se connaît, donc plus on se connaît, plus on peut le dire à l'autre, sans, parce qu'on n'est plus dans ce triangle victime, bourreau, coupable, donc sans l'accuser, ben c'est comme ça que ça peut grandir.
Mais oui, oui. Regardes bien,
hein, oui.
En réalité, on se met en couple de manière purement sociétale, hein, parce qu'après, tu as tout aussi la pression sociétale, tu sais. Ah, ouais. Plus t'avances dans l'âge, et puis on dit, oh là, bah, comment ça se fait, t'es pas avec quelqu'un, t'as pas encore fait d'enfant, et tout, etc. Et on pourrait même aller encore plus loin. Hein. C'est-à-dire que, moi, pour moi, c'est la société qui nous vend, en fait, le bonheur. C'est comme si la société avait dit, voilà ce que c'est le bonheur. Mm-hmm. Et le bonheur pour la société, c'est quoi? En tout cas, ce qu'on nous vend, hein, à travers les médias, etc. C'est, donc, se mettre en couple, après se marier, faire des enfants, avoir une belle maison avec un beau jardin, avoir un 4x4, un chien et un chat, quoi.
C'est à peu près ça. Chat, là. Je vois que tu as le chat.
Oui, j'ai un chat, ouais. Mais je ne suis pas marié. Et j'ai pas d'enfant. Et donc, et j'ai pas de 4x4, non plus. Je me dépasse à vélo. Et donc, ce que je vois, c'est que la majorité des gens, ils vont là-dedans, en fait. C'est ce qu'ils font. Et à un moment donné, moi, je me suis amusé à poser la question. Tu sais, j'ai réalisé le film C'est quoi le bonheur pour vous? Et pendant 4 ans, j'ai sillonné la planète. J'ai été dans 25 pays. Et donc, en parallèle de, ou quand je leur posais la question, c'est quoi le bonheur pour vous? En parallèle de ça, très souvent, je dormais, en fait, chez les gens. Je leur posais la question, pourquoi vous avez fait des enfants? Et je t'assure que les réponses étaient hallucinantes, hein. Pour ceux qui étaient vraiment, sincères et honnêtes, je les filmais pas, hein. C'était juste entre eux et moi. Ben, en fait, c'est toujours pareil, quoi. Ils ont fait des enfants, mais de manière purement sociétale, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fait des enfants parce qu'à un moment donné, ils s'ennuyaient dans leur couple. Ouais. Et donc, ils se sont dit que ça allait réanimer, tu sais, la flamme.
Ouais, la flamme, ouais.
Hein, ils font des enfants parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que c'est normal de faire des enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de réflexion, en fait. C'est juste normal de faire des enfants. Donc, on fait des enfants. Ouais. La réussite, c'est des personnes qui estimaient dans leur vie ne pas avoir réussi quelque chose. Et là, en fait, le fait de faire des enfants, c'était leur propre réussite.
OK.
Tu vois, je suis fier, en fait, de l'enfant. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois qu'il y avait quelque chose d'autre, mais ça me vient pas à l'esprit. Mais en tout cas, tu vois, à travers cet exemple, on voit bien que il y a quasiment personne qui m'a dit par amour inconditionnel. par amour, parce que je sentais que c'était mon chemin de vie et qu'il fallait que je le fasse. En fait, ça vibrait en moi et c'était très, très fort, tu vois. Personne ne m'a dit des trucs comme ça, quoi. Vraiment personne. Et quand j'observe après autour de moi, pareil, les gens qui ont des enfants, donc mon frère, le premier, etc. Mais en fait, moi, enfin, je sais pas toi, hein, mais moi, il y a personne qui me fait rêver, hein. Il y a personne qui me donne envie de faire des enfants, qui me dit, ah, où je me dis, ah ouais, bah, eux, ils sont heureux dans leur couple, ils ont trouvé le bon truc, etc. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai vraiment le sentiment que globalement, dans notre société, et peu importe dans le pays dans lequel on est conditionné très rapidement à avoir une vision en réalité de la vie, de ce que c'est le bonheur, la joie et tout, etc., qui est très conditionné. Et le plus difficile pour tout le monde, c'est justement de sortir de là. Parce qu'on te fait comprendre que si tu sors des rails, si tu vas dans les sentiers battus, oulala, attention là, oulala, tu risques quelque chose de très gros, quoi. Alors que, en réalité, c'est là où justement il y a de la vie, quoi. C'est là où tu te trouves toi-même, quoi.
C'est l'inverse.
C'est important de comprendre ça.
C'est important, mais pas évident. Parce que justement, après, il y a la peur. Ben, si je sors des rails, je vais plus être aimé, je vais plus être accepté. Mais pourtant, c'est la clé, quoi. Hein. C'est vraiment la clé. Mais c'est vrai que bah c'est pour ça, de nouveau, on en revient à l'éducation, l'importance de d'éduquer au plus tôt, de faire prendre conscience au plus tôt. Moi, j'adore, parce que moi, je m'occupe aussi d'enfants ou d'ados, puis ils sont quand même un peu moins conditionnés hein, que les adultes. Donc, quand on leur explique, parce que moi, bah, là, je connais aussi l'énéagramme, je sais pas si tu connais l'énéagramme, mais 9 types de personnalité. Voilà, et puis avec le tarot, de leur expliquer comment ça fonctionne, comment leurs parents fonctionnent. Il y a une compréhension qui se passe, et puis il y a un apaisement, et puis une prise de conscience. Ah ouais, bah, je comprends mieux, je comprends l'importance de m'occuper de moi, d'être à l'écoute de mes désirs, d'être à l'écoute de mes émotions, et ça peut tout changer. Et c'est juste magique. Mais c'est vrai que ça commence par ça. Mais les adultes, des fois, quand je leur dis certaines choses, ils ont peur. Puis en fait, ils ont peur, mais après, ils se rendent compte que c'est tout simple. C'est ça aussi. Hein, le premier truc, c'est oh, qu'est-ce qui va se passer? Mais après, quand tu as commencé, puis que tu as vraiment goûté et ressenti, et compris, mais compris, vraiment intégré, je veux dire, pas compris avec la tête, c'est pas quelque chose qui se comprend avec la tête, hein. C'est quelque chose qui se vit, ben, ça peut tout changer, ça peut tout changer, et c'est ça qui fait que, ben voilà, on peut tout changer, hein, voilà, hein, mais oui.
La clé du changement, c'est nous, hein. Moi j'aime beaucoup la citation de Gandhi, hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Pour moi, ça résume tout. Mais je ne sais pas si tu le fais déjà, mais peut-être ça serait intéressant de poser la question quand tu fais des conférences, quand tu es en groupe, etc., de leur poser la question, c'est quoi l'amour pour vous?
Mais oui, c'est une bonne idée.
Ouais, parce que moi, je trouve que c'est un peu comme répondre à la question, c'est quoi le bonheur pour vous? J'ai le sentiment que si là, on est 8 milliards d'individus, je pense qu'il y aurait 8 milliards de définitions différentes de l'amour. Et si c'est vraiment le cas, bah, tu verras en fait que ça pose la question de c'est quoi la réalité en réalité, quoi. Quand on parle d'amour, peut-être que on a notre propre interprétation émotionnelle, linguistique, cérébrale de ce que c'est l'amour. Et donc déjà, on part pas sur le même stade, tu vois. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime, et qu'une autre personne te dit aussi je t'aime, c'est pas le même stade émotionnel, tu vois. Non. On voit pas les choses de la même manière, quoi. Peut-être qu'il serait intéressant justement dans cette phase où on se met en couple de définir un peu tout ça ensemble, tu vois. C'est quoi en fait l'amour pour toi, c'est quoi tes rêves, comment tu conçois, je sais pas, plein de choses, tu sais.
C'est rigolo ce que tu dis, parce que dans le livre que j'ai écrit « Envie d'aimer », c'est ce que je pose comme question. C'est quoi le couple pour toi? Comment tu vois? Parce que c'est essentiel d'être sur la même, enfin pas d'être sur la même, mais au moins de savoir, j'entends les longueurs d'onde, mais de savoir les références de chacun. Parce qu'après, ça crée des quiproquos. Au début, ben voilà, t'as les hormones, donc ça va. Mais c'est après que des petites choses de rien, sur des petites valeurs, il n'y a pas de petites valeurs, sur des valeurs ou des visions, ça peut devenir compliqué. Mais c'est clair que c'est essentiel.
Nous, on s'amuse là avec ma compagne depuis quelques mois à essayer de dresser justement tout ce qui serait idéal, tu sais, pour commencer en couple. Et il y a tellement de choses, là, je les ai pas en tête. D'ailleurs, c'est dommage, on les a pas notées. En fait, ça fait partie de nos discussions quand on fait des randos, tu vois, des trucs comme ça. Et il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, qui peut être, par exemple, problématique dans le couple. C'est l'alimentation. Imaginons, t'as une des personnes, je sais pas, qui a une tendance plutôt végétarienne. Et puis l'autre, qui est pas du tout dans ce trip-là, quoi. Bah, rien que ça, déjà, ça peut causer des dysfonctionnements. Tu sais, à un moment donné, dans le couple, ça peut devenir très compliqué. Je crois qu'il y a plein de petits micro-détails auxquels on pense pas, qui serait peut-être bon d'évoquer justement avant de se mettre avec quelqu'un et qui nous permettrait de voir tout de suite si on part bien main dans la main dans la même direction ou si, oui, il va peut-être avoir des dysfonctionnements, mais peut-être qu'on peut trouver un arrangement, tu vois, peut-être voilà. qu'on peut en parler et puis voir comment chacun peut compiler autour de ça, quoi. Mais je trouve qu'il y a trop de détails dans un couple pour lequel ça serait trop dommage de passer à côté, tu vois, avant de se lancer, quoi.
Oui. Puis c'est intéressant parce que tu viens de soulever une chose importante. Tu l'as pas soulevé comme ça, mais ça m'a fait résonner à quelque chose. Moi, j'entends souvent des gens qui me disent, ouais, quand t'es en couple, tu dois faire des compromis ou des concessions. Et moi, ça me fait bondir. Parce que justement, t'as utilisé le mot que j'aime, c'est justement trouver des solutions qui conviennent aux deux. Enfin, t'as pas dit tout à fait ça, mais c'est ça. Parce que dans la notion, pour moi, dans comment je le ressens, comment je conçois compromis et concessions, on cède quelque chose à l'autre. Donc là-dedans, il y a quelque chose de frustration. Et le couple, pour moi, s'il est basé sur des frustrations, ça va pas aller, ça va pas. Parce que, justement, ces frustrations qui, au début, puis tu l'as dit, c'est des petits détails. Au début, c'est un petit truc, mais après, ça prend des proportions énormes parce que tu vas pas écouter ça et ça te bouffe et il y a de la colère dessous après. Alors que, quand on part du principe que, justement, on peut, c'est une collaboration, c'est une discussion, c'est un partage pour trouver des solutions qui conviennent aux deux. Mais souvent, on est dans, un a une idée, l'autre a cette idée, puis chacun reste dans son idée, puis voilà, c'en est un qui cède. Mais pour moi, alors ça résonne pas, c'est pas juste, quoi. Et c'est important aussi de s'entendre sur ces choses-là et de vraiment poser les choses par rapport à ça. Moi, j'ai dit, je ne veux plus. Je sais aussi pourquoi je dis ça, parce que toute ma vie, j'ai fait des compromis et des concessions. Je me suis reniée dans mes relations. C'est aussi pour ça que le couple, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, je suis là pour apprendre à être moi dans la relation. Donc, la négation de moi, je connais bien. Hein. Mais là, c'est fini. Hein. Donc, plus compromis, plus de concessions. Mais ça change tout aussi. Parce que tu vas plus te sacrifier, hein, entre guillemets, je dis ça, mais, enfin, c'est entre guillemets, mais le ressenti, c'est ça, je me sacrifie pour l'autre, quoi. Mais je pose les choses et on trouve des solutions. On trouve des solutions. Des solutions, il y en a toujours. Enfin.
C'est super important ce que tu dis. C'est super important parce que ça fait partie aussi de nos sujets de discussion. De nos observations, chacun, on a vraiment observé qu'à un moment donné, en fait, dans le couple, justement, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de concessions par rapport à l'autre. Mmh. Mais c'est pas dit, en réalité. Oui. Tu vois. C'est sous couvert d'amour. C'est sous couvert pour faire plaisir, etc. Mais en réalité, t'es pas toi. C'est-à-dire, en fait, tu te respectes pas au final, quoi.
Exact.
Et ça, c'est vraiment aussi un postulat qui est hyper important. C'est dès le départ aussi, voilà, dans ces discussions qu'on peut avoir, comprendre justement la mécanique de si toi t'as pas envie, je vais dire une bêtise, hein, je sais pas, d'aller au cinéma, tu vas pas au cinéma, quoi, c'est pas grave, quoi, tu feras autre chose, et puis moi, si j'ai envie d'aller au cinéma, j'irai au cinéma, et puis après on se retrouve à un autre endroit et puis on fera quelque chose ensemble et tout, etc. Mais que chacun essaye de trouver vraiment cet équilibre entre les deux, où personne ne fait vraiment une concession qui, mis bout à bout avec le temps, et parfois c'est juste quelques mois, qui fait qu'à un moment donné, tu sais pas pourquoi, tu vas mettre ta brosse à dents je sais pas, dans le verre, et d'un coup elle va exploser, la personne, mais c'est pas lié à la brosse à dents.
Non.
Qui sont passés avant, quoi.
Oui, exactement. Ouais.
C'est beaucoup quand les gens justement ne se respectent pas et qui vont plutôt dans le sens de l'autre personne. C'est plutôt des suiveurs, tu vois. Oui. Et en fait, tu remarques assez souvent dans les couples qu'il y a un leader et un suiveur. Il y a quelqu'un qui prend un peu le dessus. Alors, on dit souvent c'est lui qui porte la culotte et tout, etc. Oui. Mais ça peut pas être une relation saine, tu vois. Si c'est, en tout cas, si c'est pas dit, si c'est pas acté, si on n'en parle pas, si c'est pas visible, il y a forcément l'une des deux personnes qui est empathique, quoi. La communication en amont est vraiment importante. Quand je dis en amont, je parle pas de speed dating, hein. Je dis pas, on va se poser toutes les questions avant de sortir ensemble. C'est pas ça. Moi, je crois profondément à, tu rencontres quelqu'un, t'as les papillons, il se passe quelque chose et tout, etc. T'as envie d'aller plus loin, etc. Mais c'est justement dans les débuts, tu vois, où c'est intéressant de parler de tout ça, pas de se poser en mode psychologue, quoi, mais de parler vraiment de tout ça et de comprendre. Par exemple, je donne un exemple, moi, j'ai besoin de voyager, j'adore être dans la nature, j'adore faire des randonnées, je suis quelqu'un de sportif, etc. Je pense que si j'étais avec quelqu'un qui n'était pas un minimum à aimer la nature, à aimer faire des randonnées, etc., ça pourrait créer un dysfonctionnement à un moment donné. On pourrait peut-être le combler sur autre chose, tu vois, trouver des activités communes. Oui. Mais comme c'est un truc qui est important pour moi, c'est aussi quelque chose qui est important de partager aussi avec la personne. Et donc, ça peut paraître anodin, mais cumulé avec le temps et le mois, etc., à un moment donné, ça crée des déséquilibres, quoi. Donc, il faut être très attentif, en fait, à tout ça. C'est quels sont mes besoins? Quels sont tes besoins? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu attends du couple et tout, etc. Est-ce que moi, ça me correspond? Enfin, voilà, vraiment avoir ces discussions qui, pour moi, sont passionnantes. D'ailleurs, il y a des jeux de cartes, il y a des jeux de société qui amènent, en fait, cette discussion. Donc, tu vois, ça peut être très sympa à un moment donné de se retrouver chez soi puis de jouer à des jeux de cartes comme ça où on se pose des questions qui ne viendraient peut-être pas à l'esprit, mais du coup, le jeu vient l'amener. Puis en même temps, il y a un côté qui est ludique. Et donc, voilà, on apprend à se connaître de manière ludique. Voilà peut-être une idée qui pourrait aider les gens parce que, pas évident hein, d'amener des sujets qui sont un peu sérieux, quoi, entre guillemets, quoi.
Non, non, c'est pas évident. Mais zut, ça a soulevé quelque chose et j'ai oublié maintenant. Mince. Oui, par rapport aux besoins, mais aux valeurs aussi. Je pense que les valeurs, parce que si on n'a pas les mêmes valeurs, mais c'est essentiel ce que tu dis. Parce que des fois, on dit, c'est pas si grave, ouais, ben, il aime faire ça, moi pas. Mais je vois vraiment à la longue qu'après, ça fait un décalage et on s'éloigne. Et justement, quand on est dans cette perspective de s'occuper de soi, on veut plus se renier. Donc, il y a des choses, on veut se respecter, qu'on aime faire. Si l'autre aime pas les faire, on va dire, oui, mais moi, ça m'anime vraiment, j'ai vraiment envie de le faire. Et l'autre, après, il peut se sentir, bah, délaissé ou abandonné ou pas, ou s'il n'a pas de passion en commun. C'est pas évident. Mais d'où l'importance, au début, d'être honnête avec soi et puis de voir ou de faire autrement, je sais pas. Mais ces choses-là, bah, comme pour toi, bah, c'est essentiel, c'est quasi vital, quoi. C'est toi. Et si l'autre partage pas, bah c'est vrai, il y a quand même un minimum à partager. Et puis je sais pas même si c'est le bon mot de dire un minimum à partager, mais si on est avec quelqu'un, c'est pas pour rien, quoi. Donc
Et sans jugement, et sans
bah
jugement.
oui.
Alors, je précise jugement parce que de ce que j'ai observé, c'est que plus un individu progresse sur son chemin personnel, si l'autre personne, elle, ne le fait pas, plus elle progresse et plus il y a un décalage qui se crée.
Oui.
Et donc, très souvent, bah, en fait, on se comprend pas déjà parce que, bah, évidemment, on accède à d'autres choses, à d'autres informations, on découvre d'autres choses, etc. Et donc, l'autre personne peut vite juger.
Oui.
Et donc, c'est vrai que bah, ça aussi, c'est une notion qui est importante dans le domaine de la connaissance de soi, c'est de ne pas juger l'autre en réalité, quoi. On est tous différents, de bien comprendre qu'on est tous différents. On n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas forcément aussi les mêmes valeurs, on n'est pas attiré par les mêmes choses, les mêmes objectifs de vie, la même perception de la vie, de la spiritualité, de la nature, de plein de choses, quoi. Donc déjà, de se dire, bon, OK, je vais pas juger, je vais juste écouter. Okay, bah, peut-être que moi, ça me parle pas, en fait, ce que tu dis. Mais si telle chose devait arriver, bah, là, pour le coup, c'est bien de se poser les bonnes questions, quoi. Parce que si, par exemple, on n'est pas d'accord sur est-ce que c'est important de cultiver de la spiritualité à titre personnel et dans son couple? Moi, j'entends par spiritualité, pour que les gens comprennent, ça n'a rien de religieux. Hein. Je parle pas de religion. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de beaucoup plus, c'est impalpable. Bah, pour donner un exemple, ma façon de cultiver la spiritualité, c'est quand je suis en pleine nature. Moi, je me sens connecté avec le vivant. Je me sens connecté avec la vie tout autour de moi. J'aime bien d'ailleurs partir, tu sais, dormir sous ma tente, d'être en pleine nature, loin de la pollution sonore et tout, etc. Parce que je me sens totalement connecté avec les animaux et tout, etc. À tel point qu'ils viennent me voir. Donc, c'est pas juste une connexion qui est spirituelle. Hein. C'est que, bah, pour les gens qui me côtoient, à chaque fois, ils hallucinent quand ils sont avec moi parce qu'il y a une biche qui vient nous voir, j'ai le papillon qui se pose sur moi. Enfin, voilà. Mais je pense que parce que je les reconnais, en fait, je les reconnais comme des frères, comme des sœurs, comme des êtres vivants. Et donc, pour moi, c'est une forme de spiritualité. Moi, je crois aussi, pourquoi pas, à une vie, qui serait hors de notre, système solaire. Peu importe ce que c'est, quoi. Je pense qu'il y a une énergie qui est très forte autour de nous. Je ne sais pas la palper, mais j'ai l'impression que cette énergie, elle nous relie les uns avec les autres. Et c'est purement intuitif, mais pour moi, c'est aussi une forme de spiritualité. Donc, tu vois, toutes ces petites notions, par exemple, si on n'est pas d'accord l'un et l'autre là-dessus, ou si l'autre n'est pas un peu minimum ouvert à dire, bon, bah, ok, c'est ta vision, mais moi, c'est pas forcément ça. Moi, pour moi, la spiritualité, c'est Jésus-Christ, par exemple. On s'en fout. Mais si l'autre est tout de suite dans le jugement et qu'il te dit, oh là là, mais là, je suis avec quelqu'un de perché, bon, bah, c'est juste pas possible, quoi. Donc, il y a ces notions-là aussi à s'accorder quand on est en couple. C'est de voir vraiment qu'on a une perception de la vie globale qui est à peu près identique, quoi. Parce que sinon, on va être sur des désaccords sur beaucoup de choses, quoi. Ouais.
Et puis ça crée des tensions, ça crée des frustrations et voilà, et ça crée un mal-être, hein, parce que forcément, on va pas se sentir entendu, hein, on va pas se sentir reconnu d'une certaine façon, hein, parce qu'on a aussi besoin quand même d'être reconnu par l'autre, hein.
C'est ça.
Si c'est pas un truc justement comme on disait, on rencontre l'autre par rapport à nos manques, le besoin de reconnaissance. Mais là, c'est différent dans le couple. Plus on prend conscience, plus c'est normal d'être entendu, reconnu à ce niveau-là. Si on est trop divergent, on peut pas se rejoindre, quoi.
Non, et puis surtout aussi comprendre que on donne pas de l'amour de la même manière. Je sais pas si donner c'est le bon terme, mais en tout cas, on n'apporte pas notre amour à l'autre personne de manière différente. Par exemple, nous on a cette chance là avec ma compagne que notre façon d'exprimer notre amour, c'est plus juste, c'est de partager des moments de qualité. C'est notre façon à nous d'exprimer notre amour pour l'autre. On se sent vraiment pleinement dans notre amour quand on partage des moments de qualité. Et pour nous, les moments de qualité, par exemple, ça va être en pleine nature. Ça, c'est un exemple. Pour d'autres personnes, exprimer leur amour, ça va être de faire des cadeaux. Pour une autre personne, ça va être d'avoir des petites attentions tous les jours. On a tous une manière très différente d'exprimer notre amour. Et ça, rien que de comprendre ça,
c'est drôle.
Ça change mais énormément de choses dans le couple. Parce que ça se trouve, une personne dans le couple, elle va faire plein de choses pour montrer son amour, et l'autre personne, mais elle ne va rien voir du tout. Quoi, parce que ça ne rentre pas du tout, pour elle, ce n'est pas comme ça en fait, qu'on exprime son amour. Mais ça, voilà, comprendre qu'on est tous différents déjà à ce niveau-là, ça fait déjà gagner aussi beaucoup de temps, quoi.
Il y a un livre d'ailleurs qui est sorti, enfin qui existe depuis un moment, sur les 7 langages de l'amour, je crois, ou quelque
Exactement.
Chose.
Exactement, j'allais en parler, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un très bon livre qui permet voilà, de mesurer et de voir qu'on a vraiment tous des manières très différentes d'exprimer notre amour. Il y en a qui vont être très verbales aussi, qui vont dire très souvent « je t'aime » et tout, etc. Il y en a qui vont être très expressifs, d'autres qui vont être plus discrets. Enfin, voilà. Je crois que c'est vraiment important aussi de s'intéresser, tu vois, tout simplement, en fait, s'intéresser à soi, s'intéresser à l'autre, s'intéresser à l'homme, quoi, à l'être humain, quoi, en fait.
Alors moi, c'est pour ça que la rencontre avec l'Ennéagramme a transformé ma vie, parce que moi, j'étais très dans le jugement et radical sur certaines choses, et puis intolérante, on va dire aussi, vraiment, on peut le dire. Et ça m'a vraiment montré justement qu'on avait tous des différentes façons de voir les choses, de ressentir. Et puis là, c'est la même chose avec ce livre, quoi. C'est sortir de cette idée que on est tous pareils, ou sortir de cette idée qui devrait comprendre, parce que des fois on entend ça aussi, ils devraient comprendre. Non, si on dit pas vraiment les choses. Et c'est aussi ce que tu as soulevé, c'est vraiment s'intéresser à l'autre. Soit je vais me respecter et tout, mais après après c'est en même temps, mais l'autre, comment il vit ça, comment il ressent ça? Et de nouveau, l'importance de communiquer et de pouvoir, je reviens à cette notion d'intimité, de pouvoir parler du plus profond de nous, de ce qui nous anime, sans avoir peur d'être rejeté, sans avoir peur d'être blessé, et surtout sans accuser ni juger l'autre. Mais c'est déjà, pour moi, ça commence déjà avec l'intimité envers soi-même, de se dire les choses sur tous les sujets, même les plus, entre guillemets, tabous, puis même pas entre guillemets, même les plus, qui soient le plus difficiles à l'intérieur de nous, d'être honnête avec soi sur tous ces plans pour partager à l'autre, mais en ayant aussi cette connaissance de l'autre.
Mais complètement. Pour moi, quand tu parles d'intimité, ça me fait penser aussi à la sexualité.
Oui,
c'est un sujet qui est quand même, je trouve, très tabou dans notre société, la sexualité. Alors, moi, je suis hyper à l'aise avec tout ça. Ce que j'observe, donc, à travers mes filtres, c'est que, déjà, moi, de mon époque, moi, je suis né en 78, on n'avait pas accès à tous les films porno que là, sur lesquels on peut avoir accès. Donc, notamment sur Internet. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui a un téléphone peut aller sur, consulter des films porno, quoi. Donc, je trouve qu'on a complètement biaisé, déjà, notre vision de ce que c'est la sexualité à travers la pornographie, quoi. Donc, déjà, ça, c'est important aussi de le comprendre. Ce que vous voyez dans ces films-là, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Pour moi, pour faire très court, la sexualité, avant tout, elle doit être festive. Elle doit être joyeuse, ça va être avant tout un bon moment, en fait, tout simplement, qu'on passe ensemble, mais sans pression. C'est-à-dire que la pression dans notre société, c'est l'orgasme, en gros, quoi. Si t'as pas d'orgasme, en gros, t'as pas fait l'amour, quoi, avec ton partenaire, quoi. C'est-à-dire qu'on oublie tout le reste. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les préliminaires, c'est pas faire l'amour. Ça veut dire que tout ce qui se passe, en fait, toutes les caresses, tout ce qui se fait, en fait, qui fait qu'on est en train de fusionner, c'est-à-dire que c'est pas de l'amour, mais si, carrément, tout ça, c'est faire l'amour, quoi. Donc, se rappeler que l'objectif, c'est pas l'orgasme, mais l'objectif, c'est avant tout de prendre du plaisir et que ça soit vraiment joyeux et festif, c'est déjà aussi énorme, je trouve, dans notre société, où il y a une grosse pression sociétale pour atteindre l'orgasme, etc., etc. Quoi. Donc voilà, essayons de se rappeler qu'à un moment, c'est plutôt un bon moment à partager ensemble, quoi.
Voilà. J'adore, parce que justement, c'est se lâcher la grappe aussi là-dessus, sur tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous montre, sur la pression. Et je reviens juste au CD, enfin au poème là que j'ai fait, justement, des poèmes sensuels, mais simples, pour ramener, j'adore ce côté que tu as dit, ludique, là, enfin, tu n'as pas utilisé ludique, mais festif. Ouais. C'est tellement ça. Mais c'est la sexualité, mais c'est la vie aussi, hein. Voilà, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression qu'on se met, mais aussi, alors après, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais on entend beaucoup parler de sexualité sacrée. Puis les gens, ils se mettent aussi une pression par rapport à ça et ils oublient juste d'être dans le moment avec ce qu'il y a là et ils s'imaginent qu'on doit faire l'amour de telle façon ou que ça doit être comme ça. Mais c'est, enfin, moi, ça me fait aussi un peu froid dans le dos, quoi, parce qu'on oublie la vie, on oublie d'être à l'écoute de nous, de notre corps, et de vivre simplement ce qui est là. On va se mettre encore
des objectifs.
Des objectifs, voilà, par rapport à ça.
Non, c'est vrai. Alors, ce dont tu parles, la sexualité sacrée, elle concerne beaucoup plus les gens qui sont déjà dans un cheminement personnel, qui sont dans le monde de la connaissance de soi. Ça, c'est vrai que voilà, on parle de tantrisme et tout, etc. Alors, moi, ce que je pense, c'est que j'adore en fait l'idée de cultiver notre curiosité, parce que je trouve que dans notre société, on cultive pas notre curiosité. Oui. Mais je trouve que de la cultiver aussi dans le monde de la sexualité, ça peut être intéressant. Pourquoi pas essayer des choses, mais tant que ça reste joyeux,
oui,
tant que ça reste rigolo et qu'on passe un bon moment. Alors l'idée, c'est pas de se fendre la poire non plus, hein, c'est pas ça l'idée, mais que voilà, qu'on soit détaché et qu'il y ait pas de d'objectif, quoi, tu vois.
D'attente par rapport à un résultat.
Ouais. Qu'on soit juste dans le moment, juste dans l'instant, et qu'on essaye des choses, et puis voilà, on voit en fait si on kiffe, si on kiffe pas, si ça nous correspond ou si ça nous correspond pas, et puis voilà, et puis si c'est au mieux, on aura passé un bon moment à tester les choses, et puis voilà, et puis si on a envie de tester d'autres choses, il y a plein d'autres formes de sexualité, hein. Moi, je suis premier partisan à dire que la sexualité, c'est pas forcément avec la pénétration, hein. Donc, il y a plein de choses à aller explorer, qui sont hyper intéressantes, mais tant que ça se fait de manière joyeuse, ludique, j'allais dire conviviale, c'est pas le terme, quoi, mais voilà, que ouais, je trouve qu'il y a trop de pression, et pour les garçons et pour les filles, hein, ça va vraiment dans les deux. Chacun a une pression différente, mais il y a vraiment trop de pression, quoi. Il faut vraiment essayer du mieux qu'on peut de se détacher de tout ça, quoi. Mais je sais que c'est pas évident, hein. Je sais que c'est un long cheminement, mais en tout cas, c'est possible.
C'est un long cheminement et malheureusement c'est souvent tabou, les gens n'osent pas en parler. Alors comme moi c'est aussi quelque chose qui depuis toujours qui m'a intéressé, donc moi je l'amène très souvent dans les rendez-vous et souvent il y a un problème, quoi, voilà. Mais c'est comme ça que justement on peut aller amener une autre vision, qu'on peut aller guérir, parce que souvent c'est en lien avec des choses vécues aussi dans l'enfance. Mais pour moi c'est hyper important parce que la sexualité, ça peut être la communion, ça peut être tellement puissant et amener tellement. Alors c'est en ça qu'on peut peut-être parler de sexualité sacrée, dans le sens que quand on est vraiment dans cette intimité, quand on ose être soi et qu'on le partage avec l'autre, c'est juste magique. Et l'énergie qui se dégage, mais c'est puissance je sais pas combien. On est deux, mais c'est pas puissance deux, c'est puissance je sais pas quoi. Et c'est ça aussi. Que dans le couple, ce que j'observe, plus on va chacun à la rencontre de soi, plus les moments d'intimité peuvent être puissants. Puis comme tu dis, sexualité, il y a plein de choses qu'on peut aller dedans. L'intimité, il n'y a pas de façon de faire spéciale, mais c'est dans ce qu'on peut ressentir et qui peut se dégager dans le être ensemble. Parce que tu vois, même quand tu vas camper là et que tu es dans la nature, les moments avec l'autre que tu peux ressentir, c'est de cet ordre-là aussi. C'est une communion et ce qui se dégage, c'est un truc qu'on peut pas vraiment, on peut pas le définir, on peut pas l'expliquer, on peut juste le ressentir. Tout ce que je sais, c'est que quand on le ressent, je sais pas si ça résonne pour toi, mais on sait que ça participe à quelque chose de plus grand, enfin que c'est, je sais pas, c'est d'une nature, comme tu disais avant, des choses qu'on peut pas expliquer, quoi. Tu le sens, c'est comme ton lien avec les animaux, c'est cette communion avec le tout. Tu te sens appartenir au tout. Et tu sais aussi que, en te permettant ça, enfin, moi, c'est ce que je dis toujours, quand vous vous permettez d'être vous, vous permettez à d'autres d'être vous, parce que par résonance, ça agit tout autour de nous. Et c'est juste délicieux. Donc, tu reçois encore plus parce que il y a cette conscience derrière, je veux dire. C'est pas mental, c'est pas, tu y penses pas, mais tu le ressens.
Il y a deux choses dans ce que tu dis qui sont importantes pour moi. C'est que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante Donc, on a vraiment, j'allais dire, tout intérêt à la cultiver, à l'enrichir, à la choyer, etc. Évidemment, sans se mettre de pression. Mais en tout cas, c'est ce qu'on dit dans le domaine de la connaissance de soi. Il n'y a pas d'outil de mesure. Mais par contre, tu le ressens, comme tu le dis. C'est une énergie, si on apprend justement à aller dans ce sens-là, à se détacher, etc., qui est une énergie après qui nous aide dans notre vie de tous les jours. Mmh. C'est pas juste sur le moment de l'acte. C'est que cette énergie, après, on peut, j'allais dire, l'appliquer dans notre vie personnelle et professionnelle. Et ça, on le sait pas forcément. Donc, c'est une énergie qui est très, très, très puissante. Donc, à choyer. Et puis, effectivement, il faut rappeler quand même aussi que dans le couple, enfin, faut pas se voiler la face. Si ça se passe pas très bien sexuellement avec l'autre partenaire, c'est un des points aussi qui peut être quand même embêtant sur du long terme, quoi.
Ah, bah oui.
Donc, l'harmonie, se comprendre, ne pas être dans le jugement, ne pas être, parce que des fois, ça peut arriver aussi, quand on n'est pas dans un cheminement, d'avoir des réflexions quand on fait l'amour ou après l'amour, qui peuvent être totalement destructeurs pour l'une ou pour l'autre personne. Mmh. Voilà, donc de se détacher de tout ça et de se rendre compte que c'est une belle énergie, ça, c'est un point qui est important. Et le deuxième point dont tu parles, c'est, tu sais, moi, quand je prends tout ce temps, toute cette énergie et le temps que je mets pour m'occuper de moi, parce que c'est du temps et de l'énergie, où je te disais, parfois, j'ai vraiment pas du tout envie, quoi. Mmh. Il y a une partie de la population qui dit que c'est égoïste, tu sais, de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Donc, évidemment, je suis pas d'accord avec ça.
Non, non plus.
Et là où je rejoins ce que tu dis, c'est que moi, quand je fais ça, je sais que je participe à quelque chose qui est plus grand que moi. Mm. Je sais que quand je prends soin de moi, j'inspire aussi les autres, que je le veuille ou non, à prendre soin d'eux. Mm. Quand je les rencontre, quand ils me suivent dans mes activités, tout, etc. Parce qu'ils voient aussi que je dégage une certaine énergie, que je suis bien dans ma tête, que je suis bien dans mon corps, que ce qu'on met en place avec toutes les personnes qui m'entourent, participent à quelque chose de positif, donc ça continue encore et encore d'inspirer. Donc, il faut conscientiser que quand on prend soin de soi, en réalité, on prend soin du collectif. Oui. Donc, c'est pas un truc qui est unipersonnel et égocentrique. Ça a une résonance qui est beaucoup plus importante qu'on peut l'imaginer, et donc, du coup, ça agit aussi sur les autres. Donc, quand tu prends soin de toi, tu prends soin des autres aussi, que tu le veuilles ou non, en fait, c'est comme ça. Donc, si t'es dans cette dynamique un peu philanthropique, et ben, raison de plus, justement, pour prendre soin de toi. Parce que tu vas amener les gens aussi à dire, mais non, mais c'est dingue, lui, comment il fait? Peut-être que c'est, ils vont te poser des questions, ne serait-ce que ta présence. Moi, on me dit très souvent que quand on est en ma présence, je me jette pas de fleurs, ça n'a rien à voir avec ça, mais on me le dit souvent, ça apaise les gens. Les gens sont plus apaisés, quoi. Mmh. Et ben, je pense que c'est lié au fait, justement, que je prends soin de moi et que, voilà, tu vois. Et donc, voilà un exemple qui permet de dire que même si tu dis rien, a priori, l'énergie que tu dégages quand tu prends soin de toi peut aussi, tu vois, aider les gens quelque part autour de toi et les apaiser. Amma, je sais pas pour ceux qui connaissent peut-être pas Amma. Amma, c'est une dame qui enlace les gens. En fait, sa religion, c'est l'amour, hein, si c'est une religion. Et ben, enfin, pour ceux qui connaissent pas, quand elle se déplace un peu partout comme ça dans le monde, quand elle fait des sessions, c'est quasiment pendant 24 heures qu'elle va enlacer des gens. Donc, moi, je trouve que humainement, ça me paraît hallucinant, mais dans mon raisonnement pragmatique, je me dis, pourquoi elle arrive à le faire? Parce qu'elle se lève qu'une fois, a priori, pour aller faire pipi, et après elle revient. C'est que, justement, elle est dans ce transfert d'énergie en permanence d'amour. On est encore dans de l'énergie, quoi, en gros, quoi. Donc, juste en étant là, posée, et en enlaçant les gens, elle transfère de l'énergie, mais en même temps, elle le reçoit. On est dans des cercles vertueux, dans ce que je te disais tout à l'heure, où j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de grand flot d'énergie qui nous connecte les uns aux autres. Mmh. Donc, quand tu prends soin de toi, en fait, cette énergie, elle est véhiculée aussi aux autres autour de toi.
Oui, c'est évident. C'est évident. Ouais, c'est et moi, c'est ce qui m'anime aussi à partager tout ce que je partage. Moi, je dis, mon credo, c'est plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime.
Oui, c'est ça.
Voilà, et ça rejoint, on peut le transposer à tout, quoi.
Mais c'est exactement ça. Alors, je me dis, peut-être que les gens, s'ils sont pas préparés à ce genre de discours, ils vont se dire, voilà, c'est un discours qui est perché, qui est spirituel. Mais moi, je vais leur dire, mais remettez totalement en question ce que je suis en train de vous dire. Soyez un peu curieux.
Bah oui.
Voilà. Allez faire vos propres recherches. À l'heure d'aujourd'hui, et je vous aurais pas dit la même chose en 2003, vous allez dans n'importe quelle librairie en France, il y a des champs entiers de bouquins en développement personnel, en connaissance de soi, autour de l'amour, autour du couple et tout, etc. Vous allez sur Internet, il y a des conférenciers à tout va, il y a des formations. Maintenant, là, en 2022, on a tout ce qu'il faut autour de nous pour répondre à nos propres questionnements autour du domaine du bien-être et de la connaissance de soi. Donc, ne croyez pas à 100% ce que je vous dis. Remettez en question ce que je vous dis. Si vous n'êtes peut-être pas d'accord avec plein de choses, faites vos propres recherches et vous allez vous-même avoir votre propre vérité et découvrir des choses. Et ça, je crois que c'est aussi important de le dire, c'est qu'il n'y a pas une seule vérité, on a nos propres vérités aussi, et c'est important d'aller chercher par soi-même et d'être un peu un chercheur, tu sais, pour soi-même, quoi.
Ouais, chercher et expérimenter.
Exactement.
Chercher, ouais. Voilà, c'est une chose, mais après, c'est « Ah bah tiens, ça résonne, je vais expérimenter. » Puis après, on peut être à l'écoute de ce qui est juste pour nous, quoi. Ouais, c'est important, cette précision-là, parce que c'est vrai, j'oublie parfois de dire « Ne croyez pas à tout ce que je dis, mais expérimentez !» Mais oui, mais c'est tellement ça, quoi. Voilà.
Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ah oui, parce qu'une vérité pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre.
Exactement.
Donc c'est vraiment, comme tu le dis, ouais, c'est dans l'expérimentation qu'on se rend compte. Donc soyez un peu curieux et menez des expériences, toujours dans la joie et la bonne humeur.
Magnifique. Bon, mais je crois que ça me paraît être bien pour un peu pour clôturer un petit peu cette discussion. Avant qu'on termine, est-ce que tu as des actualités, enfin des choses? Alors bon, je mettrai des liens vers des différents sites, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager plus particulièrement ou bien?
Alors le plus chaud là en ce moment, on est à 3 mois du 5e congrès innovation et éducation.
Ah oui.
Il se tient à Bordeaux le 18 et le 19 février.
Oui.
Voilà, donc la billetterie est encore ouverte.
Oui.
Donc si vous voulez prendre vos billets et venir à notre rencontre, c'est avec grand plaisir. C'est un congrès qui est dédié au monde de l'éducation. Donc il y a beaucoup d'enseignants, de professionnels de l'éducation, de parents et de futurs parents en fait qui viennent. Il y a 10 conférences et 2 débats autour de plein de domaines dans le monde de l'éducation. Ça porte bien son nom, c'est l'innovation de l'éducation. Donc on essaie d'éclairer et de montrer tout ce qui peut exister autour de nous pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Voilà, c'est très court, c'est 2 jours, il y a 700 personnes qui viennent, un peu partout de la France, mais aussi d'autres pays. Donc c'est un beau point de rencontre pour se rencontrer. On parlait de valeurs tout à l'heure avec des gens qui partagent des valeurs communes. C'est ce qu'il y a de plus chaud. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est assez fou en fait ce que je suis en train de vivre là depuis maintenant 7 ou 8 mois. Parce que je suis en train d'écrire des livres. Et je suis dyslexique et dysorthographique, donc c'est très challengeant. Alors, je précise que je ne suis pas seul, parce que je crois que je n'y arriverai pas. Donc, il y a un copywriter qui m'a bien aidé pour structurer en fait toutes mes idées et mettre tout sur papier, j'ai envie de dire. Et là, je travaille avec une collègue qui repasse derrière en fait pour m'aider encore à bien tout restructurer. Donc, c'est un grand travail. Ouais, c'est un gros travail et je suis très content de ça. Ce premier livre, c'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi, sortira en juin 2023 auprès de la maison d'édition Erol. Et c'est un premier livre où j'essaye du mieux que je peux de transférer un peu ce dont on vient de parler, parce qu'à un moment donné, je parle aussi de sexualité et de couple. Tout ce que j'ai appris ces 30 dernières années, parce que je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir commencé tôt mon chemin en connaissance de soi.
Ouais.
Donc, j'essaie de transférer du mieux que je peux sur papier tous les fondamentaux, tout ce qui me paraît vraiment fondamental pour être un être épanoui, donc un esprit sain dans un corps sain. Et un livre n'était pas suffisant, donc du coup, je penche sur un deuxième livre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, voilà ce qu'il y a de plus chaud. Sinon, on va dans un moteur de recherche, on tape Julien Perron, P-E-R-O-N, et puis on tombera sur plein d'infos.
Donc, notamment le merveilleux documentaire, c'est un documentaire, hein, c'est quoi le bonheur pour vous, hein, qui est vraiment, qui est super intéressant. Enfin, moi, j'adore, déjà le fait d'aller rencontrer les gens comme ça.
Ouais, c'était génial. D'autant plus que là, on le trouve gratuitement. C'est quoi le bonheur pour vous sur YouTube et on tombe dessus. Ça a été une aventure extraordinaire. Hein. Vraiment extraordinaire. D'ailleurs, on peut peut-être, conclure là-dessus, je sais pas, mais ça me fait penser au domaine de l'intuition. Je t'explique pourquoi, c'est que tout ce que je fais depuis que je suis tout petit et donc dans mes activités professionnelles, je le fais de manière purement intuitive. Moi, j'ai 0 diplôme. Donc, je suis dyslexique et dysorthographique. J'ai commencé mon activité dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur à Paris.
Oui.
J'y suis resté 10 ans dans ces 10 mètres carrés. Et je peux dire 10 mètres carrés, c'est pas grand.
Non,
à l'époque où j'ai créé mon entreprise, j'avais pas d'argent.
Ouais.
Et j'ai réussi à créer ce que j'appelle ma vie de rêve.
Ouais.
Et quand j'ai commencé à me lancer dans l'initiative de faire C'est quoi le bonheur pour vous, je n'étais pas parti pour faire un film parce que pour moi, réalisateur de film, c'est des budgets à des millions et des millions d'euros. C'est un métier. Enfin, voilà. C'était inimaginable, en fait, pour moi de faire ça. Donc, au départ, moi, c'était juste, j'interviewais les gens. Cette question m'a porté. Je trouvais ça génial de poser cette question à des gens. Je trouvais ça trop bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que je publiais les vidéos, j'avais des commentaires de gens qui me disaient « Ah ben merci, ça a généré un déclic. C'était génial d'écouter telle et telle personne. » Et donc, du coup, ça m'a continué à motiver à interviewer les gens. J'en ai interviewé 1500. Mais je n'avais pas forcément l'idée de faire un film. Et puis, à un moment donné, intuitivement, au bout de 4 ans, j'étais fatigué de me voyager partout et de poser ces questions à des gens. Je me suis dit, bah tiens, si j'en faisais un film. Alors que tu imagines, j'ai pas les diplômes, j'ai rien, etc., pas d'argent, rien. Et bah finalement, tu vois, je me suis lancé dans l'initiative et j'ai réussi à créer ce film avec Laurent Quérin. Et jusqu'à présent, on en est à 2 millions de spectateurs quand même qui ont vu le film.
C'est énorme, hein. C'est
moi-même,
énorme.
J'étais dans plus de 300 salles de cinéma à l'époque pour débattre, tu sais, après le film.
Ouais.
Et j'aurais jamais imaginé ça. Là encore, demain, je pars dans une salle de ciné à Nancy qui projette le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» pour débattre. Tu vois, 5 ans après, elle est sortie en 2017, ça continue encore. Et donc, je dis ça, pourquoi ? Parce que je raccroche ce que je disais tout à l'heure en disant « Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde.
»
Je pense qu'on peut tous vraiment incarner la meilleure version de nous-mêmes, vraiment sous condition qu'on se donne les moyens et qu'on se donne de l'énergie pour. Et c'est valable dans le couple, c'est valable dans l'amour, c'est valable dans notre vie personnelle, professionnelle, etc. Essayons du mieux qu'on peut, chacun, vraiment de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour tendre vers la meilleure version de nous-mêmes. Si je suis là aujourd'hui à voyager partout dans le monde, à inspirer des millions et des millions de personnes, c'est parce que j'écoute cette petite voix, j'écoute cette intuition et que je prends soin de moi et que j'essaie de faire du mieux que je peux dans cette direction. Donc je me dis à chaque fois, si moi j'ai réussi à faire ça alors que je suis pas un super-héros, j'ai pas une fée qui est venue au-dessus de mon berceau là en me disant toi tu vas être comme ça. Si moi je réussis à le faire, des millions personnes peuvent le faire et le font déjà parce que moi je suis en contact avec plein de personnes qui sont un peu comme moi, quoi, on va dire. Donc on peut tous le faire.
Oui.
La seule condition, c'est d'essayer de faire le premier pas déjà dans un premier temps et après chaque jour de faire du mieux qu'on peut pour tendre vers cette meilleure version de nous-mêmes. Oui. Ça me paraît vraiment hyper important de conscientiser qu'on a une responsabilité citoyenne à ce niveau-là.
Ah ouais. Ah ouh là, on pourrait encore parler des heures de la responsabilité. J'adore. Ouais, alors merci, c'est vrai que c'est une super conclusion. J'allais te demander le mot de la fin, mais là tu l'as merveilleusement mis en mots, ce mot de la fin. Donc en tout cas, je te remercie vraiment infiniment. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi. C'était vraiment très riche. Donc j'ai aussi une bonne intuition. moi je laisse aussi parler le cœur, c'est des coups de cœur. Donc merci et puis à une prochaine fois.
Voilà. Merci à toi Fabienne, à bientôt.
Bye. Tu apprécies le contenu que je partage ? Tu penses que ça peut faire du bien à d'autres ? N'hésite pas à donner un avis et des étoiles. Tu peux bien sûr également t'abonner sur l'une des différentes plateformes pour être informé des prochains épisodes. Enfin, si tu as une ou des questions en lien avec le thème du mois, merci de me les envoyer à l'adresse fabienne@fabiennelovia.com au plus tard le 4e lundi du mois. Tu voudras bien mettre « question podcast » comme sujet et m'indiquer ton prénom et ta date de naissance pour que je puisse me connecter au mieux à ton énergie. Je me réjouis de ces futurs moments de partage et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.